myself, I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta smash some wealth on the way that can only work. Yes, I show my gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I call myself, I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta smash some wealth on the way that can only work. Running me down for my money that's dead. Where was you when I really need help? Now Flo got cheese and the baby got bread. Send my voice to Berlin, let the kid get hurt. Oh, you scared? Yeah, I've been there. If I never went first, then I wouldn't be here. I can't trust you, man. You don't ride for mine. If I put hands out, you might pull that out. Flo, watch out, man. So I get love back. That's the emoji with the grin heart. Feel the spark in my eyes, no blazing around. In my town, they be calling me the I'm just trying to put it down. Where my daddy been around? Who else do I turn to now? Everybody wanna get that money really quick, but nobody checking for phone. I don't like much crowds when I'm not at more time. I'm not, I just pen more pad. Turn this boss to sign. Box. Get mom a brand new house. Put up plan, put up. You know the future look bright. Yes, I show for the gang, cause I brought them there. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I call myself, I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way that can only well. Yes, I show my gang, cause I brought them there. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I call myself, I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way that can only well. Yes, I show my gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way that can only well.
Il est tout juste 20h heure française et 3h du matin à Tokyo. Et pourquoi cette heure japonaise ? Eh bien parce que Génération Sport est à l'heure de Tokyo, puisqu'on va tout de suite parler des Jeux Olympiques dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver sur Radio G pour votre émission Génération Sport. Il est 20h passé de deux petites minutes. Vous l'avez entendu grâce à sa belle voix suave. Alex est avec nous aujourd'hui, il sera à la régie. Bonsoir Alex, comment ça va ?
Eh bien ça va, bonjour à toi Max et bonjour à tous les auditeurs de Radio G.
Cédric est également avec nous aujourd'hui, bonsoir Cédric.
Salut à tous.
Et donc comme Alex vous l'a plus ou moins dit, nous serons en mode Jeux Olympiques, puisque ça fait un peu moins d'une semaine maintenant que les Olympiades 2021 ont été lancées. À cette occasion, on aura le temps de revenir sur des résultats. On parlera bien sûr, on parlera des Français, des médaillés, parce qu'il y en a quelques-uns. Et puis on aura chacun notre tour une petite tribune, voilà, une petite chronique. Donc messieurs, je vous laisse donner le thème de votre chronique.
Moi je vais vous parler des Angevins qui sont engagés aux Jeux Olympiques et voilà, on va revenir sur ceux qui ont déjà participé à certaines épreuves et ceux qui participeront dans les jours à venir à quelques échéances à Tokyo.
Ben moi, je vous parlerai du jeu officiel Tokyo 2020.
Et de mon côté, je vais revenir sur une légende de l'histoire du sport, de l'histoire de l'athlétisme et donc par conséquent de l'histoire des Jeux Olympiques. C'est assez récent, même s'il ne fait pas partie du casting pour cette édition. Je ferai une petite chronique qui reviendra sur l'histoire, la carrière du Jamaïcain Usain Bolt. Donc dans un premier temps, messieurs, on va parler Jeux Olympiques à chaud comme ça. Il y a eu une très bonne performance française aujourd'hui. La porte-drapeau.
Effectivement.
Alex.
Clarisse Agbeninou qui a décroché l'or au niveau de ce midi, hein, c'était sous les coups de midi heure française, la judokate qui l'a emporté face à la slovène Tren Ziak. C'était vraiment un très bon combat, et puis surtout elle avait fait un parcours remarquable tout au long de la journée. Elle décroche donc la deuxième médaille d'or française après celle de Romain Canon en escrime. Ça a été une grosse performance, ça a été très attendu, hein, puisqu'on rappelle qu'elle est donc, comme tu le disais Max, porte-drapeau avec le gymnaste Samir Aït Saïd. Et voilà, encore une fois, une très belle performance, et elle a été au rendez-vous comme Teddy Riner en 2016, et comme il y a plus longtemps David Douillet en 2000. Voilà, les porte-drapeaux judoka se portent très bien aux Jeux Olympiques. Cédric, toi qui as un petit passif du judo, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance?
Déjà, ce qui est cool, c'est que la malédiction du porte-drapeau n'a pas eu lieu. Mm-hmm. Parce que c'est souvent que le porte-drapeau, hélas, soit fini au plus bas du podium ou dans les places d'honneur, on va dire. Pour moi, ça reste compliqué, hein, de dire que c'est le plus beau combat. En tout cas, de ce qu'on a pu voir des finales au niveau des Françaises ou des petites finales, c'est le plus beau combat, mmh, d'un point de vue technique et aussi bien arbitrage. Et même, on a vu, en termes de fair play, là, on a eu un bel exemple. Hein. C'était à peine fini que ça se félicitait malgré la déception de son adversaire. Donc, on peut noter au moins sur ce point-là. Revenons un peu sur cette finale qui a été au Golden Score. Donc, Golden Score, c'est les prolongations. C'est le premier qui marque, on l'emporte. C'est passé à pas grand-chose de choquer sur cette médaille d'or, puisqu'elle l'emporte sur un contre. Mm-hmm. Et j'avoue que même avant ce contre-là, il y a eu des petits instants où on s'est fait peur sur certains, ouais, petits mouvements qui ont marqué, mais puisque les valeurs maintenant basses n'existent plus au judo, on fait que ça a continué, qu'on a pu arriver à ce contre qui amène l'or olympique, mm-hmm, et qui la sacre, je crois, comme de toute façon peut-être la médaillée la plus importante du judo.
Effectivement, elle est 5 fois championne d'Europe, 5 fois championne du monde. Il lui manquait juste le titre olympique, et ça a été fait donc aujourd'hui. Elle avait été justement battue par la même Slovène il y a 5 ans à Rio, et là c'est une très belle revanche pour elle, hein, qui avait donc décroché l'argent à Rio, et qui là s'adjuge l'or. Donc voilà, très belle performance. À noter donc que du côté du judo, on a eu une médaille par jour, avec notamment pour commencer la médaille de bronze de Lucas Mekedz, qui a donc bien combattu, hein, et qui s'est emparé du bronze. On a eu également Amandine Bouchard qui a décroché l'argent, tout comme Sizik qui a également remporté donc l'argent, c'était hier. Donc voilà, il y a eu quelques déceptions au niveau des finales, hein, puisque on est donc à 2 finales perdues côté français, mais voilà, il y a Benyenou pour nous redonner le sourire, et peut-être plus tard donc on aura une belle performance de Teddy Riner, on pourra peut-être en reparler.
Oui, bah déjà, mais bon, ça c'est toutes les équipes, mais l'équipe de France a dû changer un petit peu ses programmes pour des raisons, alors ça peut être étonnant puisque le judo, comme on le sait, c'est dans une salle, mais a dû avancer ses déplacements pour toutes ses athlètes pour être plus proche du dojo. Mmh. Donc, est-ce que le fait d'avoir de modifier un peu les conditions d'entraînement, tout ça, ça va jouer sur la préparation pour ceux qui vont arriver en fin de semaine? On n'espère pas, mais en tout cas, voilà, ils ont su s'adapter. On l'a vu en tout cas aujourd'hui, ça a porté ses fruits. On peut revenir sur peut-être sur en règle générale sur ce qu'on a pu voir sur la compétition. J'ai trouvé qu'il y avait un faible niveau. Ça va chercher plus les pénalités que l'attaque. C'est un peu une grosse tendance hein, qu'on a dans le milieu du judo depuis un moment. Yann en avait parlé avec son dossier sur est-ce que le hippon allait disparaître ou... quelque part, quand on voit ça, c'est vrai que dans tous les cas, ça prouve qu'il y a besoin de faire une réforme à nouveau.
Ouais.
Les pénalités, je sais pas, dans ces cas-là, on joue à Shifumi, puis c'est plus vite. Quoi,
mais... Non, mais c'est vrai que Yann se plaignait beaucoup de ces nouvelles réformes, notamment voilà, avec toute cette nouvelle règle qui sont arrivées, qui, selon lui, effectivement, mettaient trop de place dans la compétition et non pas dans le vrai, l'essence du judo, qui reste voilà, les fameuses prises, donc notamment le hippon. Mais effectivement, c'est peut-être un point qui dégrade un peu le judo actuellement, et notamment ces Jeux Olympiques. Également, on pourra noter que il n'y a pas que le judo qui rapporte des médailles. Il y a également l'escrime qui en a rapporté deux avec donc, comme je le disais, le titre de Romain Canon dans le tournoi épée homme, et puis une médaille de bronze également pour la lyonnaise Manon Brunet dans le sabre femme. Voilà une très belle médaille de bronze décrochée, et puis également une médaille de bronze aujourd'hui en taekwondo avec Althea Lorrain qui a donc disputé le tournoi des plus de 67 kilos femmes, et donc elle a remporté la médaille de bronze face à l'ivoirienne, je n'ai plus le nom, je crois que c'est Kwame, mais voilà, en tout cas une très belle victoire pour Lorrain. Comment ?
Avec la manière.
Hein. Avec la manière, ouais, vraiment très beau combat.
Elle a joué sur le fait que son adversaire s'est fatigué assez vite.
Ouais. Elle était menée dans la première reprise, et puis après, elle a clairement déroulé et elle a effectivement, comme tu disais, bénéficié de la baisse de forme de son adversaire ivoirienne. Donc,
ses coups de pied à la tête, puisque au taekwondo, si vous mettez un coup au niveau de la tête, ça permet de marquer deux points, tandis qu'un coup de poing, c'était un seul point. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé avec ses jambes elle l'a surpassé là-dessus en termes de. D'endurance.
Voilà, effectivement. Et c'est surtout de très bon augure pour Paris 2024, puisqu'elle n'a que 19 ans. Donc voilà, potentiellement une chance de médaille à Paris dans 3 ans maintenant. Messieurs, également, on pourra dire quelques mots au niveau des sports collectifs. À noter que du côté, je vais faire un petit point sur le handball. Le handball, les Français sont à 2 sur 2 avec donc 2 victoires face à l'Argentine et face au Brésil. Pour les féminines, ça s'est compliqué aujourd'hui avec une défaite contre l'Espagne, alors que les Françaises avaient bien réussi à battre la Hongrie d'un seul point, 30 à 29. Et puis il y a eu une grosse performance en basket avec notamment donc la victoire des Français face aux États-Unis en ouverture. Voilà, c'était un gros match. Je sais pas si les gars vous avez regardé ce match.
Un match accroché,
en fait. Un match très accroché avec les Américains qui ont dominé pendant à peu près, on va dire, 40, pardon, pas 40, mais plus
quasiment,
une vingtaine.
Quasiment les trois premiers.
Ouais, les trois quarts, parce qu'il y a eu une grosse remontée sur le quatrième quart temps, je crois, avec des Français qui infligent un 14-0 aux Américains. Et voilà, les Français qui ont fait preuve de caractère.
Quatrième ou troisième quart temps
C'est dans le troisième, je crois, qu'on a pris la tête.
Oui, il me semble que c'est ça.
Un instant. On a pris la tête, après c'est revenu en faveur des Américains.
Et après on a
fait cette remontée sur le dernier.
Et effectivement, voilà, grosse performance des Français qui battent les Américains pour la deuxième fois consécutive après les Mondiaux en 2019. Du côté des filles, elles ont perdu ce matin leur premier match face au Japon, Cédric ?
Oui. Alors moi j'ai pu voir que le premier quart-temps, en tout cas je trouvais que déjà dans le premier quart-temps il y avait une leçon qu'on pouvait déjà voir, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu comme en finale de la Coupe d'Europe, ça cherchait à aller se compliquer les choses, à scorer plutôt que de contrôler, alors que quand on voit le premier quart-temps... Elles arrivent à faire l'écart à peu près de 9 points, ça variait, quoi. Mais ça restait correct. Et au final, le final, il n'y a pas un gros écart que ça. Hein. Mais je pense que ça a pêché là-dessus. Donc c'est à la fois très inquiétant parce que c'était peut-être les matchs qu'il ne fallait pas perdre.
Ouais, bah, c'était le premier surtout.
C'était le premier, et puis surtout derrière, il va y avoir les grosses équipes à jouer.
Notamment, justement, les États-Unis, je crois. Au prochain match.
C'est le troisième pour les États-Unis.
Troisième, peut-être, mais je crois qu'il y a donc le Nigeria également à jouer. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour les Françaises de se qualifier pour la suite du.
C'est ça, le prochain sera face au Nigeria et après, ce sera face aux États-Unis.
Voilà, ce sera assez compliqué pour les Françaises de se qualifier. On verra ce qu'elles sont capables de faire. À noter également, au niveau du volleyball, les Françaises sont à 1 sur 2. Une défaite 3-0 sèche face d'abord donc aux États-Unis et ensuite une victoire 3-0 face à la Tunisie pour se relancer. Les Français qui jouent à
beaucoup
7...
de tirages contre les Américains.
Effectivement, on va jouer beaucoup les Américains. Et puis demain, donc ces volleyeurs qui vont jouer à partir de 7h25, il me semble, et ils vont jouer face à je n'ai plus l'adversaire en tête, mais en tout cas voilà les Français qui vont jouer. Il y a pas mal de sports co qui vont disputer un match, notamment donc demain on aura une session avec le basket masculin, le handball masculin, effectivement avec également le football masculin, on va y revenir juste après, et donc effectivement donc les volleyeurs qui seront engagés contre l'Argentine, voilà pour la troisième journée.
Basket
3v3. Exactement, j'allais y revenir. Le basket 3x3 qui s'est qualifié pour les demi-finales également face aux États-Unis. Voilà, effectivement, on affronte beaucoup les États-Unis. Et donc, une très belle performance des Françaises qui ont réussi donc à se qualifier pour les demi-finales. C'est vrai que c'est une discipline nouvelle qui vient d'arriver aux Jeux Olympiques. Et pour avoir regardé certains matchs, c'est assez intéressant.
C'est intense, c'est impressionnant. Mmh. Oui,
ça se joue donc sur des périodes de 10 minutes. Et c'est vrai que c'est 10 minutes à fond avec donc 4 joueuses qui se relaient pour voilà essayer de comme on dit marquer des points, et avec donc dans la raquette des paniers qui valent 1 point et à l'extérieur 2 points au contraire du basket à 5. Mais voilà, c'est une nouvelle discipline que je trouve très intéressante, et les Françaises qui peuvent peut-être décrocher une médaille, on verra ça si elles battent les États-Unis, sinon ce sera un match pour la 3e place. Et donc on va revenir un petit peu sur le football avec donc les résultats de notre équipe de France qui est un peu déçue, on va pas se mentir, avec ce premier match d'ouverture face au Mexique, une défaite 4-1 qui a fait beaucoup de mal, et puis face à l'Afrique du Sud on a longtemps cru que ça allait être le même calvaire, et au final les hommes de Sylvain Répol qui s'en sortent. Messieurs, est-ce que vous avez jeté un petit peu des coups d'œil au match, est-ce que vous avez vu des résumés, des buts, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ce début de tournoi?
Faut pas oublier que je pense qu'un tournoi olympique est beaucoup plus dur à jouer qu'une Coupe du Monde ou.
Ah ouais?
Qu'une Coupe d'Europe, ouais. C'est les jeunes. Ils ont quasiment pas de grosses compétitions à cet âge-là. Tu peux changer de groupe très facilement, tellement que ça peut évoluer très vite. Il y a des nations qui sont vraiment programmées juste pour les JO. Et qu'on voit pas dans les compétitions habituelles. Donc c'est pour ça que je pense que le niveau peut paraître plus faible sur le papier, mais je pense qu'en termes d'intensité et d'envie, c'est largement au-dessus.
Mmh. Oui, moi j'ai pas regardé les matchs en entier. Je déteste m'infliger la torture. Mais du peu que j'ai regardé, j'ai pas trouvé ça vraiment très impressionnant. Comme l'a dit Cédric, c'est des jeunes. En plus, de ça, c'est pas forcément ceux qui jouent habituellement dans cette catégorie-là. Donc, il y en a qui ont été appelés en équipe de France. Il y a d'autres, c'est des anciens, comme André Pierre Gignac, qui pour l'instant réalise un très bon tournoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas cette alchimie. C'est pas une équipe qui joue ensemble depuis depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. C'est très compliqué. Mais je crois qu'il manque. On espère quand même que l'équipe de France va se qualifier au prochain tour. Mais ça paraît mal barré pour la victoire finale. Jouer une équipe comme le Brésil, par exemple, qui sur leur match sont plutôt satisfaisants à avoir joué.
Et puis ils sont champions olympiques en titre.
Ils sont champions olympiques en titre. Et puis il y a surtout l'impression que eux, ils ont donné les moyens à leur équipe d'aller gagner ce titre. Ouais. Alors que nous
l'équipe du Brésil est assez impressionnante. Hein.
Ah oui, l'équipe du Brésil est vraiment bonne. Et nous, c'est des remplaçants de remplaçants, donc c'est compliqué.
Le problème des clubs qui ont vu leur intérêt à juste titre pour certains et pour d'autres qui ont voulu bloquer leurs joueurs histoire juste de les bloquer.
Ça se posait la question de quelle est la place de ce sport aux Jeux Olympiques. On voit énormément de foot aujourd'hui Et les clubs ne veulent même plus laisser partir leurs joueurs pour aller jouer une compétition comme ça. Donc à quoi ça sert de maintenir ce format-là du football? C'est une question qui peut se poser aussi dans les années à venir.
Après, c'est le problème qu'on a en France, comme à chaque fois, c'est la fédération aussi qui ne fait pas ce qu'il faut aussi pour aider. Hein. Je sais qu'il y a des fédérations qu'on dit au club, non, c'est voilà, tous les 4 ans, nous, on veut nos meilleurs joueurs et... voilà quoi, enfin, venez pas chialer parce que vos joueurs sont pas là. C'est pas comme, enfin, moi ce que je me pose comme question, c'est on fait comment avec la Coupe du Monde au Qatar qui va être en plein.
Ouais. Non mais du coup les championnats seront arrêtés à ce moment-là.
On sait pas encore.
C'est quand même probable que.
Pour l'instant rien n'a été annoncé.
Le problème sera le même. Là les championnats étaient arrêtés. Enfin tu vois c'est ce que je veux dire, c'est que. Je pense que c'est un problème que la fédération française devrait saisir dès maintenant pour réfléchir. Et puis il faut pas oublier, c'est que ils l'ont voulu cette qualification.
Bien sûr.
Ils l'ont défendu coûte que coûte. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Derrière, ils ont pas été suivis et on préparait techniquement 2024.
Et également voilà. Également tu parlais donc effectivement du manque de jeu Max dans cette équipe. On peut également souligner le manque de travail d'un homme, c'est Sylvain Rivepol hein, qui depuis plusieurs années saccage un petit peu tous nos talents espoirs. On reste quand même sur une élimination en quart de finale avec une génération dorée avec les espoirs. C'est vrai que ça fait un peu mal de voir effectivement donc un Sylvain Rivepol à la tête d'une équipe aussi prometteuse. Bon pour le coup c'est cette équipe des Jeux Olympiques, on parle de la qualité des joueurs qui ont été retenus, voilà, ça c'est on va dire indépendant de sa volonté, mais en tout cas dans le jeu effectivement il n'y a pas tellement d'idées folles et voilà c'est très vite limité en termes de qualité collective et voilà on est obligé de se remettre à des exploits de Colomoigny, de Gignac et de Savenier qui font un bon tournoi. On reparlera un petit peu plus tard notamment dans ma chronique du tournoi de Paul Bernardoni et de sa défense un petit peu calamiteuse, mais voilà on en reparlera un peu plus tard. Sinon on peut renchaîner messieurs en tout cas sur ce début, hein, les JO qui ont démarré depuis 4 jours maintenant, est-ce que vous avez déjà un fait que vous avez retenu, un coup de cœur ou un coup de gueule? Voilà, on avait fait ce pareil avec l'Euro, mais pour ces 4 premiers jours, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez retenu qui vous fait plaisir ou peut-être quelque chose que vous attendez peut-être un peu plus tard?
Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été plus ou moins marquantes. On n'a pas trop parlé de boxe, mais...
Deux déceptions avec 2 éliminations prématurées.
Ah, une surtout qui est vraiment, on va pas dire scandaleuse, mais on n'en est pas loin parce que en termes de décision, on est retombé un peu dans les travers qui font que de toute façon la boxe est toujours en sursis au JO. Le combat du français contre l'américain, clairement oui, il perd la première, ça y a pas à dire. C'est vrai, mais bon, qu'il la perde, c'est logique. La deuxième, il la gagne. Et dans la troisième, c'est lui qui doit la gagner. Mm-hmm. Et largement. Et puis derrière, le geste de l'américain qui fait des fucks.
Ah ouais?
Ouais. C'est pour super. Narguer son adversaire. Ou...
C'est super JO, ça, c'est l'esprit.
C'est, voilà. Donc, apparemment, il n'y a pas eu de.
De sanctions?
De sanctions pour l'instant, en tout cas j'ai rien vu passer. Donc, sport où il y avait déjà des polémiques de base, ça va remettre une petite couche supplémentaire. Après, pour le combat de la française, j'avoue, enfin quelque part,
c'était équilibré.
Sur la première reprise, qu'ils mettent les 5 juges d'accord,
ouais.
C'est un peu étonnant. Il y a toujours quand même un côté qui bascule. Après, elle a fait le boulot derrière et c'est vrai qu'il faut pas perdre cette première reprise et là, elle l'a perdue.
Effectivement, Maïva Amadouche qui a beaucoup, on va dire, pesté en conférence, en tout cas au micro de France TV, puisque voilà, elle avait beaucoup de regrets et pour elle, elle n'avait pas perdu ce match. Et en plus, c'est une athlète qui d'habitude est professionnelle, qui vient dans le monde des amateurs, s'adapter à un style de jeu parce que la Fédération française de boxe voulait la voir au JO. Elle accepte de faire tout ça et au final, elle n'est pas récompensée.
Et puis elle arrivait vraiment en repêche, genre.
Ah ouais, vraiment, c'était
pas prévu. Enfin, ça a été très compliqué. Ouais.
Et c'est vrai que c'est assez courant, malheureusement, de voir des mauvaises décisions aux Jeux Olympiques. Je pense à notamment regretter Alexis Vastine en 2012. Je me souviens d'un combat qu'il avait gagné de la tête et des épaules et il avait perdu. C'était invraisemblable sur décision des juges. Et effectivement, on a eu de la réussite à Rio, à Londres, du coup, beaucoup moins. Et là, effectivement, pareil, deux polémiques, on va dire, sur décision des juges. On verra plus tard. Je crois qu'il y a encore Oumia et encore, j'ai plus d'autres noms en tête, mais je crois qu'il y a encore un autre boxeur en lice. Voilà, on verra si les boxeurs sont capables de ramener une petite médaille après les 6 récoltés à Rio. Toi, Max, est-ce qu'il y a un truc que tu as retenu depuis le début de ces Jeux?
Alors oui, il y a deux trucs. Il y en a un qui m'a fait beaucoup rire et l'autre qui est un vrai... alors, j'allais dire un vrai soulagement, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui fait plaisir. On est au troisième tour du tournoi tennis masculin.
Ça, c'est incroyable.
Et il y a deux Français.
Ça, c'est...
Ouais. Bon, c'est pas pour longtemps, parce que Humbert tombe sur Tsitsipas, le pauvre.
Ah, on sait jamais. On sait jamais. C'est pas les mêmes conditions.
On sait jamais, mais voilà, en tout cas, il faut s'en réjouir dans cette période sombre du tennis, ce tennis français. Et donc, comme j'ai dit, Humbert tombera sur Tsitsipas, ce sera demain, ce sera à 4h du matin. Et de l'autre côté, c'est Jérémy Chardy qui va affronter le Britannique Brady. Sinon, dans le tournoi de tennis, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais grossièrement, toutes les têtes sont là.
Chez les hommes, en tout cas.
Chez les hommes, oui, attention. Il y aura un match aussi intéressant à suivre, ce sera Fonini qui affrontera Medvedev. Donc Medvedev qui, d'ailleurs, fait assez étrange, j'ai remarqué ça au début des Jeux. Il n'y a pas la Russie aux Jeux Olympiques.
Oui.
Par contre, il y a le comité olympique russe.
Oui, le Roche. Ouais.
Donc,
c'est bizarre. Hein.
Bon, ils ont changé le nom du pays. Bref.
Non, en gros, effectivement, ils sont censés être sous bannière neutre.
C'est pour ça que j'étais étonné. Ouais.
C'est pour ça, c'est le comité olympique
ouais.
russe.
Ouais. Et en plus, surtout, sur normalement, donc on se dit au départ, donc ils ont enlevé juste le drapeau russe. Sauf que du coup, il y a quand même couleurs de la Russie sur le drapeau, donc un peu bizarre. Voilà, effectivement, après d'un côté...
C'est des décisions simplement politiques. Hein,
voilà, c'est ça.
Et puis avant de parler du deuxième truc hein, qui m'a pas mal fait rigoler, on n'a pas fait le point sur le classement des médailles. Cette équipe de France qui se classe actuellement 9e, et puis on a des mastodontes hein, devant qui sont déjà irrattrapables. On a le Japon qui a 18 médailles, dont 10 en or, et les États-Unis 25 médailles, dont 9 en or, la Chine 21 médailles, dont 9 en or, et comme on a dit, le comité olympique russe 18 médailles, dont 7 en or. Ça va être très dur de les rattraper, et donc moi, le dernier truc qui m'a fait, donc je l'ai pas vu en direct, mais qui m'a fait beaucoup rire, c'est donc je pense que vous avez vu la scène, c'est quand la cycliste arrive seconde, mais est persuadée d'avoir gagné.
La hollandaise,
c'est une scène invraisemblable. Donc la hollandaise, donc Van Vleuten, j'ai retrouvé le nom, qui était la favorite. Eh bien, elle n'est pas arrivée première, puisqu'il y en a une qui arrivait 2 minutes avant. Donc elle célèbre et tout, oui. Et elles n'avaient pas d'oreillettes. Et donc elle arrive 2 minutes après sur la ligne et elle saute de joie, elle est trop contente. Et malheureusement, quelques secondes après, elle apprend qu'elle n'est pas championne olympique.
Après, elle a une médaille.
Quelques secondes, et encore, ça a duré, franchement, je dirais un bon 2-3 minutes avant que
sa manager lui dise.
Qu'on lui explique. Hein, oui,
oh, la clim qu'elle a dû prendre.
Ah oui, clairement. Ben voilà, c'était un truc marrant et je me suis dit, ben, pourquoi là, elles n'ont pas d'oreillette.
Ouais.
C'est dans les règles des Olympiades.
Il y a beaucoup d'équipes. C'est-à-dire que normalement, dans les circuits de l'UCI, on va dire qu'il y a à peu près 10-12 équipes par tour, on va dire. Mais là, du coup, il y a je ne sais pas combien de nations qui sont représentées et chaque nation a ses coachs et on ne peut pas avoir 50 voitures, 50, 100 voitures derrière.
Il y a ce côté-là, sécurité aussi. Puis bon,
bien sûr.
Tu dois pouvoir t'entraîner techniquement dans les mêmes conditions et il y a des pays d'avoir tout le matos d'analyse, tout ça.
Ça aussi.
Oui. Puis ils vont pas mettre tout leur budget sur la compétition vélo.
C'est ça.
Après, oui, mais ils ont fait une. Enfin, les Hollandais ont été très doués là-dessus pour leur donner la médaille d'or. C'est qu'ils ont aussi fait la même bêtise quelque part pour le cyclisme, pour le VTT. puisque sur sa chute, notre fameux maillot jaune qui avait tout claqué pour aller s'entraîner.
Et Mathieu Van Der Poel.
Voilà, qu'on voyait sur le podium. Il a fait une chute, pareil, impressionnante.
Ouais, très.
Pas trop
de séquelles.
Il est blessé, mais voilà, ouais, ça aurait pu être beaucoup plus grave.
Mais il a fait un soleil.
Il a fait un magnifique soleil. Et en fait, à ce passage-là, il a expliqué que lui, il était persuadé qu'il y avait une échelle en fait pour réceptionner, puisque pendant 2 jours, quand il s'entraînait, il y avait effectivement une échelle en bois à cet endroit-là. Et lui, bah, dans sa tête, c'était acquis. Et en fait, il est parti pleine balle et il a volé. Mais oui, c'est vrai que ça fait partie du coup des moments un peu fun, on va dire, de ces quelques jours d'Olympiade.
Effectivement, donc moi après je vais effectivement vous raconter mes deux, on va dire, déceptions de ce début d'Olympiade. Avant ça, donc Max, tu parlais du tennis, tu parlais de notamment les favoris dans le tournoi masculin qui sont présents. Pour les féminines, c'est beaucoup moins le cas, avec notamment Naomi Osaka qui a été éliminée aujourd'hui donc par la Tchèque Vondroušová. Et donc effectivement, c'est, on rappelle, l'athlète qui a allumé la flamme olympique dans le stade olympique de Tokyo lors de la cérémonie d'ouverture. Peut-être qu'on pourra y revenir brièvement parce que je vois que le temps file. Mais effectivement, voilà, la japonaise qui était le gros espoir pour les Japonais dans ce tournoi de tennis féminin, pardon. Voilà, qui a été éliminée. C'est une grosse désillusion pour, on imagine, tous les Japonais et également la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, qui a été éliminée. Voilà, moi, mes deux déceptions, je dirais que elles se sont passées aujourd'hui et hier. Aujourd'hui, c'était notamment le VTT français féminin, avec notamment Pauline Ferrand-Prévot qui a, on va dire, raté sa course, même si elle, apparemment, aux interviews, elle n'est pas satisfaite.
Il y a polémique.
Sur un potentiel, justement, je vais un peu raconter la course. Effectivement, donc la Française qui part bien avec une des Suisses qui était devant. On rappelle que les Suisses font top 3 sur cette épreuve et c'était assez incroyable, il faut le souligner. Bref, et en tout cas, donc sur une montée sur des pierres, la Française qui se voit un peu couper la route par la Suisse. Elle essaye de freiner, mais du coup, elle perd le contrôle de son vélo qui tombe tout en bas de la montée, et du coup, elle est obligée de reculer, elle galère un peu et elle perd un temps précieux. Voilà, et au final, apparemment, elle se disait quand même contente, satisfaite d'avoir tout donné, malgré, je crois, une 9e place, qui est quand même décevante pour celle qui a quasiment tout gagné en dehors des Jeux Olympiques, effectivement.
Et donc, favorite,
grosse déception. Effectivement, elle était assez favorite, et puis elle avait également une jeune coéquipière, je n'ai plus le nom en tête, effectivement, qui a terminé 6e et qui, pareil, rêvait d'un potentiel podium, et malheureusement ça ne s'est pas fait. Et l'autre déception,
il y a aussi rajouter que les conditions n'étaient pas forcément exceptionnelles, puisque avec le typhon, du coup c'était assez humide, et c'est vrai que ça a dû changer les conditions, ne serait-ce que sur les pierres qui devaient être glissantes.
Effectivement, voilà. Mais en tout cas, j'ai également admiré un peu la belle mentalité de Pauline Ferrand-Prévot qui ne regrette pas d'avoir terminé à cette 9e place, qui retiendra le fait d'avoir tout donné malgré cette petite erreur. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais effectivement, ouais, un beau podium en tout cas pour les Suisses, avec notamment Neff, Frey et Indergand, qui termine toutes les trois aux trois premières places. Également, voilà, c'est Lecomte qui a terminé 6e. Voilà, une jeune espoir du VTT VTT français, pardon. Et puis une autre déception pour moi, c'était en triathlon, avec Vincent Louis qui a terminé seulement 13e. Voilà, on rappelle que c'est le champion du monde de la discipline. C'était une grosse chance de médaille, potentiellement d'or. Et effectivement, voilà, une déception pour le triathlète français. Voilà, c'était quelques mots, voilà, que je voulais dire, mais effectivement
l'épreuve n'a pas été si évidente que ça, en fait.
Ouais, justement,
parce que vu la chaleur qu'il y avait, il y a, mine de rien, ça on le saura jamais réellement, il y a ce, alors par contre là, bravo l'organisation sur ce coup là le faux départ qu'il y a eu à cause d'un bateau qui est arrivé de je sais pas où, mais du coup qui a bloqué toute une partie des concurrents. Donc du coup, bah, ils l'ont évacué et redépart. Donc forcément, ceux qui avaient commencé à partir devant, ils ont laissé un petit peu des plumes. On a vu l'état du vainqueur hein, qui finit au sol avec des vomissements, qui a été évacué ensuite sur fauteuil roulant. Donc c'est vrai que la contre-performance elle est là, mais le résultat somme toute est quand même important.
Effectivement, le triathlon qui est une discipline où personnellement je trouve vraiment très difficile. J'ai beaucoup de respect pour ces athlètes qui font des performances incroyables. On va donc marquer tout de suite une petite pause musicale. On va tout de suite s'écouter le titre de Népal. Tout de suite, c'est Sundance.
Lundi au Sunday, bloqué dans ma tête. Ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe R, j'préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On se coffrait dans des bulles d'air, même après la verse. J'peux pas dire que j'aurais pu le faire. J'y vais ou j'la ferme, j'préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os. Oh, 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 oh. On va laisser ça aux os. Oh, oh. C'est les os, oh, 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 oh. Pourquoi vouloir faire comme les os, oh, 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 oh. Des fois je pense aux injustices. À un monde où pour faire kiff il faudrait être bac plus 10. Y'a pas plus de raison d'avoir peur que d'être serein. Si je ferais quoi un milli, c'est pas pour des tartes à la meringue. Quand j'étais petit, je pouvais canner un refrain avec toutes mes histoires. De cette époque, j'ai retenu que le plus important c'est d'y croire. Mais un connard qui s'y croit trop, ça je déteste. Vis au moins ta vie, mon gros, si tu vis pas tes textes. Drop ça par étapes, comme dans le bouquin d'Herman S. Un jour une ligne de plus et je parle pas de S. Diablesse, juste un humain bloqué dans la masse d'air. Confonds pas ta destinée et le manesse. Laisse personne te rabaisse. Nos entourages transpirent nos défauts, guettent les fréquentations. Mais nos qualités aussi, donc on garde les mêmes fondations. Toujours straight, pire qu'un franc-maçon en formation. Et comme un grand garçon, je fume l'instrumental de 30
façons. Du lundi au Sunday, ouais. Bloqué dans ma tête. Ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe R, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verse. Je veux pas dire que j'aurais pu le faire. J'y vais ou je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os. Oh, 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 oh. Tout ça c'est les os. On va laisser ça aux os. Oh, 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 oh. On va laisser ça aux os. Puisque l'enfer c'est les os. Oh, 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 oh. Puisque l'enfer c'est les os. Pourquoi vouloir faire comme les os.
Et de retour dans les studios de la Radio G pour la suite de votre émission Génération Sport. On revient sur toute l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur internet via www.radio-g.fr. On est de retour donc avec vos deux chroniqueurs préférés. Il y a donc Max Cédric qui veut commencer pour sa chronique. Peut-être Max, on va commencer avec la rapidité, avec notamment donc la flèche
la
jamaïcaine.
La rapidité, on met un couteau sous la gorge, mais il y a aucun souci. Oui.
Bah, en tout cas, l'objet de ta chronique, en tout cas, c'est quelqu'un de rapide.
Ah si, tu. Ah,
l'objet quand
seconde,
même.
C'est pas bon.
L'homme.
Effectivement, oui. L'homme.
Le monstre. Donc, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans cette émission, j'ai décidé de vous parler de Usain Bolt. Voilà, on est en pleine période olympique et voilà, en recherchant un thème de chronique, je me suis dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marqué mon enfance hein, de téléspectateur de Jeux Olympiques, mais qui donc soit est sur le déclin, soit est carrément à la retraite. Et j'ai bien sûr tout de suite pensé à Usain Bolt. Donc on est parti, je vais vous raconter un peu son histoire. Il est donc né le 21 août 1986 dans le petit village de Sherwood Content, dans le comté du Cornwall en Jamaïque. Donc aujourd'hui à la retraite, Usain Bolt a 34 ans et est considéré comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Et à l'occasion donc de ces Jeux Olympiques, il est temps de revenir en détail sur la carrière et sur les exploits d'un des plus grands noms du sport. Le jeune Usain Bolt avait, dès son plus jeune âge, des qualités pour la course exceptionnelles, et c'est au lycée qu'il a commencé à se faire remarquer. Le jeune Bolt, alors âgé de 14 ans, brillait dans de nombreuses compétitions, comme les championnats nationaux lycéens ou encore les championnats régionaux juniors de la Caraïbe. Sa spécialité à l'époque, ce n'était pas le 100 mètres, mais bel et bien le 200 mètres. En 2002, lors des championnats du monde juniors qui se déroulaient chez lui en Jamaïque, il est devenu le plus jeune sportif de l'histoire être champion du 200 mètres. Il n'avait alors que 15 ans. Et c'est en 2004, à 17 ans, que Usain Bolt passe professionnel et commence à être considéré comme réellement comme la future star de l'athlétisme mondial. Il continue alors de parcourir la terre entière à la quête de nouvelles courses et de nouvelles performances. Sa première compétition majeure et internationale a été compliquée, c'était en 2005, durant les championnats du monde d'Helsinki, où il termine 8e de la finale du 200 mètres, avec un temps bien en dessous de ses habitudes. Et l'un des réels tournants de la carrière d'Usain Bolt s'est déroulé en 2007, juste avant les championnats du monde d'Ottawa. Usain Bolt aimerait alors courir dans la discipline reine du sprint, le 100 mètres, et son entraîneur de l'époque, Glenn Miss, accepte cette requête à la seule et unique condition qu'Usain Bolt devait battre le record de la Jamaïque sur 200 mètres, qui était alors de 19 secondes 86 et qui était détenu par la légende Don Carey depuis 1970. Et quelques semaines plus tard, lors des championnats nationaux de Jamaïque, Usain Bolt a battu le record jamaïcain du 200 mètres avec un temps de 19 secondes 75, ce qui lui permit de se qualifier pour les championnats du monde à Ottawa. Durant ces championnats du monde, justement, Usain Bolt ne va pas participer aux 100 mètres, pas tout de suite, mais aux 200 mètres et au relais 4x100. Il remporte à 2 médailles d'argent avec en prime un record de la Jamaïque pour le relais 4x100. Malgré ses énormes qualités, Usain Bolt a largement été battu par l'Américain Tyson Gay lors de la finale du 200 mètres. Un an plus tard, il s'agit de la révélation pour Usain Bolt. En 2008, Usain Bolt se met au 100 mètres et lors de sa 5e course seulement sur cette distance et à quelques semaines des Jeux Olympiques, il établit un nouveau record du monde en 9 secondes 72. Usain Bolt était donc très attendu lors des Jeux à Pékin et cela n'a pas raté. Médaille d'or au 100 mètres avec un nouveau record du monde établi en 9 secondes 69, puis médaille d'or du 200 mètres avec un nouveau record du monde en 19 secondes 30, puis enfin médaille d'or du relais 4x100 avec la Jamaïque. Malheureusement, cette médaille lui sera retirée quelques années plus tard car un de ses coéquipiers a été reconnu coupable de dopage. Mais Usain Bolt ne s'est pas arrêté là, il a participé au championnat du monde de Berlin en 2009, là où le Jamaïcain a une fois de plus choqué le monde du sport en établissant un nouveau record du monde en finale du 100 mètres avec un temps de 9 secondes 58, un an jour pour jour après sa finale olympique à Pékin. Quelques jours plus tard, Usain Bolt remet les couverts, médaille d'or du 200 mètres et nouveau record du monde avec un temps de 19 secondes 19. Il termine ses championnats du monde avec la médaille d'or du relais 4x100. La machine Usain Bolt est donc bel et bien lancée et paraît inarrêtable. Seulement en 2011, lors des championnats du monde se déroulant en Corée du Sud, Usain Bolt réalise un faux départ lors de la finale du 100 mètres et se fait donc disqualifier. Le Jamaïcain quitte la piste en larmes, mais se rattrapera en gagnant une fois de plus la médaille d'or au 200 mètres et lors du relais 4x100. Il enregistre même un nouveau record du monde du relais avec ses coéquipiers en 37 secondes 04. Lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres, Usain Bolt réalise un nouveau triplé, 100 mètres, 200 mètres et relais 4x100, avec en prime un nouveau record du monde, une fois de plus, cette fois-ci pour le relais, avec un temps stratosphérique de 36 secondes 84. Usain Bolt n'en finit plus en 2013 lors des championnats du monde de Moscou. Nouveau triplé pour le Jamaïcain sur les disciplines du sprint. En 2015, il devient le premier athlète de l'histoire à réaliser le triplé lors de 3 championnats du monde différents, en s'accaparant la médaille d'or du 100 mètres, du 200 mètres et du relais.
Il devient par la même occasion l'athlète le plus titré de l'histoire des championnats du monde d'athlétisme. Les Jeux Olympiques de Rio en 2016 sont une fois de plus marqués par le Jamaïcain qui gagne les trois courses une fois de plus, avec toujours une facilité déconcertante. L'année 2017 est la dernière année de la gigantesque carrière d'Usain Bolt, avec comme point d'orgue les championnats du monde à Londres, où il avait à cœur de briller. Cependant, Usain Bolt perd pour la deuxième fois de sa carrière la finale d'un 100 mètres, mais cette fois-ci sans disqualification. Il termine troisième de la course, laissant Justin Gatlin, l'homme qui a été dans son ombre depuis toute sa carrière, remporter enfin un titre de champion du monde. Il reste alors une course pour Usain Bolt, l'ultime course, la finale du relais avec son pays. Malheureusement, Usain Bolt se blesse pendant la course et termine au sol. C'est la dernière image du monstre jamaïcain sur une piste d'athlétisme. Donc voilà, cette chronique est terminée. Juste un petit point au niveau du palmarès bien chargé de Usain Bolt. C'est quand même 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques, ainsi qu'une médaille de bronze, 2 médailles d'argent et 11 médailles d'or aux championnats du monde, ce qui fait de lui l'homme le plus titré de l'histoire dans cette compétition, et sans aucun doute un sportif qui nous a fait vibrer et qui a laissé à jamais son empreinte, dans l'histoire de l'athlétisme et dans l'histoire du sport.
Et bien, quel palmarès et surtout quelle légende qu'est Usain Bolt. Voilà, très belle chronique. Effectivement, voilà, Usain Bolt, le plus sûrement l'un des plus grands athlètes de tous les temps, en tout cas le plus rapide, ça c'est sûr. On va enchaîner sans transition avec Cédric. Cédric, tu nous as préparé une chronique qui va donc également parler des JO Tokyo, puisque tu vas nous parler d'un aspect dont on évoque assez peu habituellement, c'est donc le jeu vidéo Tokyo 2020.
Oui, parce qu'en plus, ce jeu a quand même une particularité, c'est qu'il sort en 2021, alors qu'il est sorti en 2019 au Japon. Puisque en fait, c'est le jeu sous licence officielle des JO. Donc, ça faisait quelques années qu'on n'avait plus de jeu pour l'été. Puisque le dernier en date, c'était celui de Londres, donc 2012. Et pour les jeux d'hiver, il faut aller chercher encore plus loin. Je crois de mémoire, le dernier, c'est peut-être Lillehammer. Et encore, peut-être Salt Lake City, pas Salt Lake, mais les derniers JO d'hiver qu'il y avait aux États-Unis. Donc ça remontait très loin.
Au Canada, Vancouver peut-être.
Ou Vancouver. Il y a peut-être eu Vancouver.
Ouais, voilà, un truc comme ça.
Mais en tout cas, enfin voilà, des sports qui... Des jeux de sport comme ça, ça devient de plus en plus rare. Et même les jeux de sport type athlétisme, on en a de moins en moins. Donc c'était l'occasion de retester un peu ce que valaient les jeux de ce type-là. Donc là, on est sur un jeu qui est très arcade, hein. Comparé aux anciens qui étaient plus dans la simulation, où il fallait, pour courir, marteler deux boutons, la fameuse technique du briquet a fait ses preuves, ou de frotter son t-shirt. Il y a des t-shirts qui ont souffert, on leur rendra hommage à la fin de ces JO. Mais là, donc, on est plus sur un gameplay, une touche, une action, quoi. Donc, ce qui fait que par exemple pour le 100 mètres, on martèle juste le bouton X à fond. C'est un jeu, voilà, qui est donc accessible à tout le monde. C'est très intéressant là-dessus pour jouer en famille. Voilà, donc au niveau des disciplines, on a le 100 mètres, le 100 mètres haies, le 4x100 mètres, le saut en longueur, le lancer de marteau. On a du 100 mètres en natation, on a 200 mètres en natation. On a le baseball, le basket, le beach volley, la boxe, le BMX, le football, le judo. Avec un gameplay qui n'est pas exceptionnel, puisque pareil, il s'agit juste de marteler la touche et de s'arrêter dans des zones prédéfinies pour faire justement des actions plus ou moins fortes qui vont apporter soit un hippon ou un wasari. Et on peut aussi faire les pénalités, comme quoi le jeu est en accord avec la compétition. On a du rugby à 7, on a l'escalade, on a du tennis de table et du tennis, aussi bien ensemble qu'en double. Donc c'est voilà, c'est... Il y en a un peu pour tout le monde. Alors après, c'est, voilà, c'est un jeu, on fait une ou deux soirées avec ses amis. Donc si vous voulez le tester, attendez un petit peu, il va sûrement baisser après les JO, ça a même peut-être déjà commencé, puisque de base c'est un jeu à 40 euros. Et après, si vous voulez un jeu dans le même style, il y avait eu aussi les Sonic, enfin Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui étaient sortis l'année d'avant aussi. Il y a plus de disciplines, je crois, mais pareil, on est plus dans un jeu fun qu'un jeu sérieux. Là, on reste quand même dans le sérieux. Bon, après, on peut faire des méga démarrages, on peut jouer avec des costumes de Sonic, enfin, comme c'est Sega qui le produit, donc... C'est un petit jeu sympa à faire en cette période olympique.
Oui, moi, pour le coup, j'ai pu y jouer. Mais j'ai préféré le Londres de 2012 parce que, ouais, comme tu l'as dit, c'était vraiment plus de la simulation, quoi. T'avais vraiment l'impression de contrôler un sportif. Et là, c'est vrai que c'est marrant de jouer un peu, mais trop se jouer à jeu, ça m'a un peu gavé, honnêtement. Les personnages ont des têtes énormes. Comme tu l'as dit, on peut jouer avec des costumes de personnages, on peut s'habiller en Sonic. Tu vois un Sonic faire un 100 mètres à côté. Pareil,
je valide, hein, ça marche pour avoir les médailles d'or.
Du coup, tous les personnages, il y a des hommes qui courent à côté des femmes, à côté de Sonic, à côté de chevaliers, à côté. Enfin, c'est un bordel pas possible, mais le délire principal est là et j'aime bien. Et moi, c'est quoi ? C'est le volleyball que j'ai pas mal accroché. Je crois que c'est le sport, le mini-jeu que j'ai le plus apprécié. Après, ouais, 100 mètres. Bon, t'as juste à marteler ton bouton X. Bon, bah, j'ai cassé deux manettes comme ça. Mais non, sinon, il y a la natation, si c'est pas mal. Le 4 nages.
Le 4 nages est très compliqué, j'ai trouvé, ouais. Par contre.
Très compliqué, mais je préfère que ce soit compliqué que, voilà, que trop facile, quoi.
Très bien. Eh bien, on clôture donc cette petite page jeux vidéo. On va donc terminer. Il reste à peu près 10 minutes avant la fin de l'émission. Je vais continuer donc avec cette chronique sur les Angevins qui sont engagés aux Jeux Olympiques donc de Tokyo. On va notamment citer certains qui sont originaires d'Angers, hein, certains qui sont actuellement à Angers ou en tout cas dans le département, hein, notamment avec une Choletaise. Mais voilà, effectivement, donc on va revenir sur les sportifs du 49 qui évoluent donc à Tokyo actuellement. On va commencer par ceux qui ont déjà un petit peu commencé la compétition avec une grosse déception, c'est le tennisman angevin Nicolas Mahut, après avoir remporté le tournoi en double avec son partenaire de toujours Pierre-Hugues Herbert. L'Angevin et l'Alsacien paraissaient donc les grands favoris du tournoi double homme et représentaient ainsi des grandes chances de médailles pour la France. Malheureusement, le duo tricolore a déchanté dès le premier tour et s'est fait sortir d'entrée par la paire britannique emmenée par Andy Murray et Joe Salisbury, déjà bourreau des Français il y a 5 ans à Rio. Éliminé donc au premier tour du double messieurs, Nicolas Mahut reste tout de même en lice pour le mixte, puisqu'il va donc former une paire avec Kristina Mladenovic, les deux compatriotes qui vont démarrer leur parcours en huitième de finale en tant que tête de série numéro 1 face à la paire russe Vesnina Karatsev. On va passer maintenant au football et Paul Bernardoni, hein, le portier du SCO qui est engagé avec l'équipe de Sylvain Ripoll, le gardien de but donc d'Angesco, connaît des débuts de Jeux Olympiques très mitigés. L'ancien Nîmois a encaissé 7 buts en 2 matchs, mais a pu réaliser quelques belles parades, notamment une sur coup franc contre l'Afrique du Sud en première mi-temps. D'un point de vue collectif, l'équipe de France de football est en perdition en défense et l'Angevin n'est pas aidé par les nombreuses erreurs de sa défense avec les boulettes successifs de Sagnan, Michelin ou encore Barre. Après une défaite 4-1 contre le Mexique et une victoire à l'arraché 4-3 contre l'Afrique du Sud, les hommes de Ripoll sont toujours en lice pour rallier l'écart. Pour cela, il faudra réaliser un bon résultat contre l'hôte japonais demain. Ensuite, on va passer à la gymnastique artistique avec notamment donc Caroline Éduit qui est donc originaire notamment de Trélazé, plus petite athlète de la délégation française avec ses 1m45. La jeune Caroline Éduit a fait ses gammes à Trélazé avant de rejoindre Avoine dans l'Indre-et-Loire. Du haut de ses 17 ans, l'Angevine est parvenue à se hisser en finale du concours général individuel et également le concours général par équipe avec la France.
par équipe, la française a, comme ses partenaires connus, une soirée assez décevante à Tokyo. Les tricolores terminent 6e, loin derrière le podium occupé par les Russes, les Américaines et les Britanniques. Sa finale pour le concours général individuel se disputera le jeudi 29 juillet à 12h50. Elle disputera cette finale notamment aux côtés de sa compatriote Mélanie De Jesus dos Santos. Grosse chance de médaille pour la France. Au niveau du tennis de table, on va se diriger du côté de Cholet avec notamment Jianan Yuan qui a donc longtemps cru décrocher une médaille avec son partenaire de double mixte Emmanuel Lebesson en atteignant les demi-finales, mais donc deux défaites en demi-finale puis lors du match pour la troisième place ont éteint les chances de médaille pour le tennis de table français. À noter que donc le tennis de table français qui attend tout toujours une médaille depuis les Jeux de Sydney en 2000. Voilà, ça date beaucoup. Voilà, les Français qui sont pas passés loin, mais malheureusement, voilà, c'était une quatrième place hein, pour le duo français. En simple, la Française naturalisée en 2011 n'a pas passé le premier tour en s'inclinant ce matin contre la Sud-Coréenne Ji Jeon. Donc voilà pour le tennis de table et la pongiste Jianan Yuan. On va passer du côté de l'eau avec le canoë-kayak puisque la kayakiste angevine Vanina Paoletti ne sera engagée que dans le K4 dont les qualifications ne démarrent que le 6 août, aux côtés notamment donc de Sarah Guyot, Manon Ostens et Léa Jamelot. Vanina a pris notamment la lumière juste avant les Jeux, notamment grâce à une vidéo du youtubeur angevin Joyka qui mit en lumière donc l'athlète du CKC Angers. La Française part à Tokyo donc avec une belle communauté sur Instagram qui s'élève à 42 000 abonnés alors qu'elle n'en avait que 1300 avant la fameuse vidéo dans laquelle son coach évidemment ne cesse de faire l'éloge de ce grand espoir du kayak français. On va passer à l'athlétisme avec Amandine Brossier qui est engagée dans le 400 mètres femmes, fraîchement championne de France à domicile à Angers. La coureuse tricolore arrive pleine d'ambition dans la capitale nippone dans une discipline qui n'a pas vu de Français briller depuis très longtemps. La membre d'Angesco Athlétisme est également engagée dans le relais 4x400 mètres dans une équipe de France qui aura à cœur de briller et qui sera composée notamment de Sokhna Lacoste, Flora Gay et Shana Grebeau. On continue et on termine avec Nicolas Touzin qui est donc qui participe avec l'équipe de France au concours complet en équitation. Le natif d'Angers est donc cette année engagé dans ce fameux concours complet, 21 ans après son premier et unique titre olympique décroché à Sydney. La France, donc championne olympique en titre de l'épreuve, a malheureusement vu sa préparation tronquée par les forfaits successifs d'Astier Nicolas, Thibaut Valette ou encore Thomas Carlil. Tout cela donc en moins d'un mois. Il sera donc accompagné lors de ce concours complet des remplaçants Christopher Six et Karim Lagouag. Voilà pour toute la présentation des enjeux qui sont engagés à Tokyo cette année. Messieurs, est-ce qu'il y a des enjeux dont vous espérez une médaille cette année car quasiment tous peuvent encore chercher quelque chose.
En athlée, on est habitué, donc on va espérer au moins voilà, là-dessus. Après, pour les autres disciplines, c'est moins connu de mon côté, donc on peut leur souhaiter que le meilleur. Hein. Puis, de toute façon, déjà, je pense que pour eux, le fait de vivre l'aventure olympique, c'est déjà un pari gagné, donc on leur souhaite que le meilleur.
Max ?
Justement, j'étais en train de rechercher Nicolas Mahut, donc qui est en tournoi double mix avec Mladenovic. Voilà, Nicolas Mahut reste toujours le plus gros sportif en juin, en tout cas celui à qui on met le plus de chances de son côté. Voilà, après il y a des très jeunes sportifs comme tu l'as dit, ouais. Et on n'est pas à l'abri d'une belle surprise.
Effectivement, on a également noté que pour les Jeux paralympiques, on pourra
également compter sur l'expérimentée nageuse Claire Supio et le jeune pongiste Matteo Boias, mais ils font peut-être l'objet donc d'une chronique dans les émissions à venir. Effectivement, car il ne faut pas oublier donc ces fameux Jeux paralympiques qui vont arriver donc juste après les Olympiques. Voilà pour cette émission. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de la fin à dire avant de se quitter avec le générique?
Bah voilà, il y a plein de disciplines où les Français ont quand même brillé par des cinquièmes places ou en tout cas étaient pas loin du podium pour quelques points. C'est vrai que c'était dur en une demi-heure de vous faire un résumé le plus complet de toutes. On a choisi de plus parler des résultats positifs, mais en tout cas de mon côté, j'ai vu du positif dans le surf, dans le skateboard, dans le tir aussi. Enfin, on reviendra sûrement là-dessus, soit à la fin des JO, soit un peu plus tard dans la saison, pour mettre en avant ces athlètes qui ont vécu leurs premières Olympiades et qui, ça peut être que du positif pour 2024.
Très bien, donc on va se quitter avec le fameux générique et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite donc d'une prochaine émission de Génération Sport. Et évidemment, on parlera des JO avec notamment plusieurs médailles, on espère, dans la délégation tricolore. On vous dit à mardi prochain et on vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio G.